Hey yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Iggy pour un nouvel épisode de ce podcast essentiellement consacré à la mode, mais pas que. Aujourd'hui, on va parler d'un autre de mes grands centres d'intérêt, qui est l'art. J'ai récemment eu la chance de rencontrer Hyacinthe Ouattara, un artiste plasticien burkinabé qui exposait à Paris. On a discuté de cette exposition, mais aussi des arts africains, de l'engouement autour de la créativité africaine, de la créativité noire et de la problématique qu'il pose. Merci beaucoup à Hyacinthe d'avoir répondu à ma sollicitation et de m'avoir accordé son temps. J'ai passé un super moment, on a eu une conversation très enrichissante et j'espère que tu le ressentiras. Bonne écoute!
Il y a des fauteuils et tout, donc on va se poser dedans et
parfait.
Ça fera l'affaire. Merci beaucoup, Marie. Bon,
n'hésitez pas.
Oui. Alors, à nous.
Bonjour. Bonjour. Vous voulez vous asseoir là?
Non.
Non, vous n'embêtez pas, vous n'embêtez
non,
pas.
Non, non,
vous
ça va, pas. Ça va aller.
Ah, je suis baignée de votre travail, c'est très agréable.
Ah.
Merci.
Vous connaissiez Hyacinthe peut-être avant
pas
de...
Du tout.
Pas du tout? Découverte?
Complètement.
Oui.
Voilà, ça me fascine, ça me rend joyeuse, donc je trouve ça très agréable.
D'accord. C'est l'effet que produit ton art sur les gens, ça rend heureux, ça apaise.
Et c'est pas mal, hein,
oui,
dans ce temps.
C'est ça, oui, surtout dans ces temps, c'est une vraie récompense, quoi.
Oui, tout à fait.
Je voudrais que tu te présentes avec tes mots.
Alors, pour me présenter, je suis Hyacinthe Ouattara. Pour faire simple, originaire du Burkina Faso, d'Afrique de l'Ouest et d'adoption française, et mon pays d'adoption vivant en France depuis maintenant 10 ans. Et je suis entièrement autodidacte. J'ai fait quelques initiations à l'encontre de l'art, mais je ne peux pas appeler ça comme une sorte de formation. Parce que bien aimé, il y a un décor d'art légiféré par l'État. Où on forme des élèves à devenir des futurs artistes. Donc, tous les artistes plasticiens, en général, au Burkina sont tous des autodidactes.
Oui.
C'est ce qu'on appelle l'école de la vie. Il y a une grande école de cinéma, il y a une vraie vie artistique. Mais voilà, c'est aussi ça. C'est comme ça que les artistes aussi sortent. Ils sortent du ventre de la terre. On appelle ça les magiciens de l'ailleurs. Voilà, ce sont ces mots-là que je peux utiliser pour dire que souvent on m'a demandé comment on fait pour devenir artiste venant d'un pays où il n'y a pas d'école d'art. Donc je réponds toujours que l'école, ce n'est pas forcément le lieu pour former des artistes. Il y a l'école de la vie,
oui,
qui est pour moi la meilleure école du monde.
On visite un petit peu, on fait un petit tour.
Voilà, on est dans l'exposition, on est en face de certaines œuvres qu'on voit en observant la lune, on a l'arc-en-ciel, on a les battements cardiaques de la Terre, on a biomorphisme et ancestralité, et on a la série Les signes de l'âme.
En lisant le pitch, il y a des éléments, des mots qui ont retenu mon attention, notamment ceux de la spiritualité et des éléments naturels. Quelle place est-ce que la spiritualité occupe justement dans ta vie personnelle et dans ta création?
Alors, moi je dirais, je parlerai plutôt de pèlerinage ancestral, parce que je pense que mon passé est la somme de ce que je fais, tout simplement, lié à un lieu, à un environnement d'où je viens, parce que j'ai grandi et vécu à l'époque dans un village qui était habité par beaucoup de choses. En fait, le sud-ouest du Burkina, c'est un village qui est entouré de collines, et d'où cette appellation surnommée les Indiens du Burkina. C'est un village dans lequel on fait beaucoup d'initiations. On apprend à écouter le vent, toutes ces manifestations, tous ces signes, des éléments qui entourent l'humain, en fait, qui cherchent à mettre forcément l'humilité au centre de tout, qui dit que l'humain n'est pas le centre de toute chose. Voilà, donc on est dans une forme de d'initiation depuis le bas âge qui nous dit que le boa sacré entoure les villages, c'est le gardien du temple en fait. Donc on a été baigné dans ces choses-là, on les appelle des totems. Mmh. Donc des totems d'un village, ce sont les sages en fait du village qui amène ça et qui le prodigue, qui enseigne, qui donne ça aux futurs naissants.
Oui.
Et donc on ne peut pas expliquer avec les mots pourquoi ça, mais c'est aussi les éloges de nos racines. Mmh. Donc ensemble, on ne peut pas dire que c'est un élément spirituel, mais c'est un instrument spirituel. Et tout être est spirituel,
oui,
d'une manière ou d'une autre. Mais la création est un instrument spirituel comme un guide qui va éclairer une route ou un tunnel sombre.
Oui.
Et c'est une béquille. Et le lieu dans lequel l'humain naît est le départ de toute chose. Et tout est parti de là pour,
oui,
moi. Donc c'est vraiment cette ville, ce village qui a fabriqué mon imaginaire. Toute ma force se trouve là-bas.
Oui.
En réalité, j'ai l'impression qu'une partie de moi vit toujours là-bas.
Toujours là-bas. Oui.
Comme si c'était une palette dans laquelle je vais chercher chaque fois que,
oui,
j'ai besoin de quelque chose.
Non, oui. Tu peux nous rappeler le nom de ce village?
Alors, c'est Diébougou.
Diébougou.
Ça veut dire... Burkina Faso, c'est dans le sud-ouest. Ça veut dire la terre blanche.
Terre blanche.
Voilà.
Okay, où, très bien.
Pour faire une traduction littéraire, une pierre blanche qui est posée au centre d'un lieu, mm-hmm, qui est le sanctuaire de ce lieu-là.
D'accord.
Parce que dans tout pays, dans toute ville, il y a ce qu'on appelle la première pierre. Et même Paris a une première pierre.
Exactement. Je suis certain. Oui, oui, oui. Faudra enquêter.
Il faudrait
demander aux anciens, exactement, aux anciens de Paris. Est-ce que tu retournes souvent dans ce village?
J'y vais quasiment une fois par an.
D'accord.
Et une fois tous les deux ans. Donc, okay, dernièrement, je suis allé faire justement cette série qu'on voit ici, le battement cardiaque.
Cardiaque. Ok, ça a été fait là-bas. Très bien.
Ont été faits dans ce village.
Oui.
Là, on voit dans la vidéo où j'enterre les
œufs, oui,
au sol.
Oui, exactement.
Et après, je les déterre 15 jours,
oui,
plus tard.
Oui.
Ça a été fait dans ce village-là. Ces peintures-là ont été réalisées là-bas.
D'accord.
Et donc, c'est une, en fait, quelque part, même une... C'est à chaque fois, c'est un pèlerinage.
Mmh, bien sûr.
Donc, c'est hyper important pour moi d'y retourner à chaque fois pour simplement me rappeler de d'où je viens.
Oui, exactement. Très important. Très important de se rappeler d'où je viens. Parce que important. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va.
C'est ça.
Je voulais qu'on parle justement des battements cardiaques de la Terre.
C'est ça.
Alors, ce sont ces deux toiles.
Le battement cardiaque
celle-là
de la
aussi.
Terre, celle-ci et celle-ci.
Et celle-là aussi, ok.
Notamment les deux toiles qu'on voit en face de la vidéo.
Ok. Donc, ce sont des toiles que tu as enterrées au sol, puis déterrées.
C'est ça.
Plus tard, tu nous disais.
Voilà.
Quelle a été ta surprise quand tu les as déterrés justement? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose en particulier?
Alors, les battements cardiaques de la Terre, il faut dire que c'est parti d'une phrase d'Edouard Glissant qui disait qu'il... Parce qu'il y a une dimension littéraire qui traverse beaucoup aussi mon travail. Mmh. Ça vient aussi de ces griots de l'ancestralité qui, pour moi, sont les premiers poètes. Donc, il y a une influence, il y a une... Tout est lié en fait. Il y a l'écriture est intimement liée à mon travail. Donc et la parole aussi, mais la parole au sens pictural du terme.
Oui.
Donc il y a des fois des évocations qui m'amènent vers des images, comme cette phrase de Glissant qui dit qu'il écrivait avec des mots déterrés la nuit.
D'accord.
Donc dans
c'est
le fait
ce qui
de dire,
ouais,
c'est
ce...
ça.
Oui.
Le fait de dire déterrer des mots. Et c'est resté longtemps à moi. Ça veut dire que des mots sont cachés sous la terre.
Oui.
Parce que j'aime bien cette métaphore. Et puis en même temps, cette métaphore va m'amener à le creuser, mm-hmm, justement. Parce que ça veut dire que si on écoute le silence, on peut déterrer des mots pour pouvoir et les sortir. Donc
oui,
moi, j'ai joué avec et ce flux-là pour aller maintenant enterrer mes mots à moi,
oui,
et qui sont des toiles. Et puis après, je les ai déterrés. Donc, il y a une manière de retourner à la Terre.
À la Terre, exactement.
qui nous porte. Et puis maintenant, je vois la matière qui s'accumule. Il y a une superposition, une accumulation de couches, ouais, de strates, de temps, d'histoire, de passé, qui agissent sur cette matière-là.
Ouais.
Et donc, quand je déterre, 15 jours plus tard, je vois ce que je vois. Et c'est une forme de non-peinture,
oui,
et qui est là, qui vit et qui vibre. Donc, et c'est en cela que j'évoque souvent l'esthétique du silence. Parce que le blues est né du silence, par exemple.
Oui.
Et c'est parce qu'on empêchait des gens de se parler,
de s'exprimer,
oui, dans sûr, les champs de coton,
exactement,
que le blues est né, en fait. Et donc, comment on... C'est pour ça qu'on parle souvent des oubliés de la parole, parce que la parole n'est pas quelque chose de naturel. Ça veut dire qu'on absorbe des choses et puis on se met à parler.
Oui.
Et c'est ça la magie du monde.
Ah, la première fois que j'ai vu ces œuvres, je t'avoue, je me suis demandé si c'était de l'encre.
En fait, c'est de l'indigo, en fait. Voilà.
De l'indigo, très bien.
Qui vient de l'indigotier, mais cet indigo-là est fait... Il se fait dans beaucoup de villes africaines,
mm-hmm,
et dans le monde d'ailleurs, hein, c'est pas que l'indigo, on le retrouve un peu partout dans le monde, justement,
oui,
c'est
oui,
ça la magie de cette couleur, et celle-ci vient de mon village en particulier, de Djibouti.
D'accord.
Et donc on a une couleur qui bouge souvent, qui change avec le temps et qui est dans un mouvement perpétuel.
Oui.
Et c'est un bleu qui se bleuifie et avec le temps. C'est-à-dire que la couleur, elle bouge un petit peu tout le temps sur la toile. Et elle s'évapore, elle réapparaît par petits points et le temps agit sur la couleur.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une couleur aniste.
Oui. Il voudrait qu'on se dirige vers cette œuvre.
Oui, okay. Biomorphisme et ancestralité.
D'accord. Biomorphisme et ancestralité, donc c'est une toile, donc un nœud de tissu.
Mm-hmm.
Alors ces tissus, d'où est-ce qu'ils viennent?
Alors, ces tissus viennent des lieux de collecte,
mm-hmm,
comme les brocantes, et puis comme des lieux, comme des vides-greniers aussi,
okay,
ou Emmaüs. Et ce sont en fait, les tissus qu'on voit ont chacun une histoire, en fait. Ici, mm-hmm, on a une anthologie de tout mon travail autour du textile. C'est vraiment l'œuvre, on va dire, c'est la première œuvre qui regroupe des recherches d'il y a 10 ans.
Mm-hmm. Ok.
Voilà, qu'on retrouve dans une seule pièce. Elle est divisée en plusieurs états,
mm-hmm,
comme une carte.
Comme une carte, exactement.
Voilà.
Oui,
donc
oui.
On a des territoires récomposés, des identités récomposées, on a des espaces. Et donc ici, nous avons la peinture, nous avons la sculpture et on a les constellations. C'est une constellation. On a des toiles cousues qui évoquent les cœurs cousus, en fait.
Mm-hmm.
Et les cœurs cousus, dans des sociétés ancestrales, on a les mots qui sont cachés à l'intérieur des cellules, des boules qu'on voit là, et qui sont des membranes qui évoquent aussi des futures vies, des cellules.
Mmh.
On a des encres, on voit l'indigo ici,
oui,
apparaître.
Oui, oui.
On a la peinture qui est cousue. On dépasse la peinture, on dépasse juste l'œuvre, en fait. On est dans le dépassement, mmh, ici, dans cette... Clairement, ici, c'est une ouverture totale vers un ailleurs et complètement. Et là, j'ai fait 2 mois de travail sur cette pièce-là. On a tout, tout est dans cette œuvre. Et comme si c'était, on va dire, une synthèse de tout, quoi.
Oui.
Tout le chemin, et voilà, il y a un regroupement de tout, il y a des lignes, voilà. C'est vraiment une œuvre qui peut être apparentée à une sorte d'encyclopédie.
Oui.
Pour moi, comme un livre qui... Un grand livre ouvert.
Exactement. C'est intéressant de savoir que ce sont des tissus récupérés, donc ça touche aussi un petit peu à l'œuvre.
Ce sont des tissus rencontrés.
Tissus rencontrés.
Ouais. C'est différent.
Voilà, d'accord. Donc des tissus rencontrés, donc
ouais,
ça touche un petit peu à l'upcycling.
Ouais.
Donc la réutilisation ou le fait de redonner vie à, mm-hmm, des matières qui existent déjà. Donc
c'est ça,
tu touches un petit peu à la mode aussi.
Ouais.
Moi, cette toile, elle m'a fait penser à une phrase qu'un jour un artiste m'a dit, un autre artiste, un musicien, un rappeur américain m'avait confié. Mm-hmm. Il m'avait dit que c'est quand on a le moins de ressources qu'on est le plus créatif.
Oui.
Alors, je ne dirais pas que tu n'as pas de ressources, parce que ça reste quand même énormément de ressources. Ouais. Mais est-ce que tu rejoins ces dires, disons ?
Je rejoins ça parce que c'est faire beaucoup de choses avec très peu de choses. Mm-hmm. C'est une bonne définition de la poésie. C'est partir de rien pour faire des choses. Mm-hmm. Et donc, c'est ce que j'appelle l'atelier à ciel ouvert, en fait. Ça rejoint totalement mes recherches parce que les premières années, quand je me suis installé en France, j'étais appelé à travailler dans un appartement.
Oui.
Et donc, au lieu de travailler dans un appartement, je travaillais à l'extérieur. C'est comme ça que j'ai commencé à nouer les tissus en voyant tout le monde dans des manteaux très sombres. Mm-hmm. Et donc, je me disais, ça manque de couleur, il faut que je puisse connecter les uns et les autres, créer du lien avec les gens, entre les gens plutôt. Oui. Parce qu'il y avait une vraie distanciation entre les gens.
Oui.
Et donc mes premiers travaux ont commencé là, comme ça, avec une conversation avec l'extérieur. Je pars toujours d'une petite chose. Et comme si à chaque fois, je demande, quand je vais dans un lieu pour faire de l'art, je demande au Dieu de la création de m'accepter dans leur temple. Pour faire de l'art, je ne vais pas en disant que je vais aller faire une œuvre. Mmh. Je me dis que je vais aller expérimenter des choses. Je vais dans un laboratoire de recherche. Et donc, je commence toujours, toute cette œuvre-là, elle est partie d'un petit point que j'assemble. Et je ne sais pas tout de suite où je vais. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup d'hésitation, mais j'essaie d'être le plus sincère possible. Je me dis que même les doutes font partie de l'art.
Exact.
Et quand on ne doute pas, on ne peut pas faire de l'art. Donc, il faut douter constamment. Et je pense que c'est ça, biomorphisme et ancestralité. C'est un océan ouvert, c'est une cartographie humaine.
Oui. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir?
Oui, bien sûr.
Pour suivre la discussion, j'ai d'autres questions à te poser. Justement, dans ton œuvre d'art, puisqu'on est devant des nœuds de tissu, quand est-ce que par quoi tu as commencé, disons, dans ton parcours? Est-ce que c'était justement la peinture? Est-ce que c'était ces sculptures? Est-ce que tu as commencé par quelque chose, par un des deux en particulier, ou est-ce que les deux sont venus un peu spontanément et naturellement en même temps?
Alors, j'ai commencé par le dessin. C'est une passion d'enfance. Ma mère a beaucoup joué sans le savoir ou même sans faire exprès. Elle m'a transmis beaucoup de choses. Parce que c'est pour ça que je dis souvent que je suis vraiment le fils de ma mère, parce que je suis dernier enfant d'une fratrie de 6.
D'accord.
Ce qui fait que j'étais beaucoup amené à rester au plus près de ma mère, à observer tout ce qu'elle faisait. Ma mère travaillait quand elle était en service dans une maternité. Mmh. Et donc, pendant 40 ans, elle y a travaillé comme sage-femme et matrone dans cette maternité-là. Donc, dans une maternité, on a la vie qui arrive tous les jours. Mm-hmm. Et donc, moi, comme j'étais le petit dernier, j'y passais beaucoup de temps. Quand elle faisait ses périodes de garde, moi, je dormais quasiment 3 jours d'affilée dans la semaine. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans ces lieux-là. Et donc, pendant ces moments, elle passait son temps après le service. Elle a été très active dans le fonctionnement de la maternité. Elle s'occupait beaucoup des bébés qui naissaient là et dont elle faisait même l'accouchement, elle qui était au centre de ça. Et donc, elle dessinait sur des papiers craft pour faire des patrons de layettes, pour après en faire ce qu'on appelle des sacs d'accouchement qui accompagnaient les femmes à la maternité. Donc, les premiers dessins que je voyais, c'était ça. C'était vraiment les premiers traits que je voyais, comment on dessine. C'est vrai que le dessin est spontané. Chaque enfant dessine. Oui. Tous les enfants du monde peuvent dessiner. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le premier langage d'un enfant, c'est le dessin.
Exactement. Les enfants dessinent même avant de parler.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment ces gestes-là que j'ai vu beaucoup. Découper les formes de vêtements, de tissus, et après en faire une couture. Donc, après, elle faisait la couture de ses layettes, pour après aider les femmes de cette maternité-là qui naissaient là-bas, qui faisaient naître les enfants là-bas. Et donc, plus tard, je suis revenu à cette pratique-là. Et je pense que c'est ça l'ailleurs, en fait. Parce que si je m'étais dit, tiens, je vais faire tout de suite, peut-être que je n'allais pas pouvoir... Mais je crois que je me suis laissé traverser beaucoup.
Oui.
Et après, plus tard, après mes études d'enseignement général, j'ai décidé d'arrêter de mon cursus scolaire.
Oui.
Et pour faire quelque chose sans savoir qu'est-ce que j'allais faire. Mm-hmm. Donc, tout a commencé par le dessin, en fait. Dessiner sur du papier, et après découper, et exactement comme ce que faisait ma mère, coudre,
oui.
prendre soin de quelque chose.
Mm-hmm.
Et tout ça, c'est des choses que je voyais à la maternité.
Oui.
Donc, comme si mon travail est un retour à mon enfance.
Cette enfance au village, donc
c'est ça, ce fameux village-là, Diébougou, qui est
Diébougou.
Toujours au cœur de notre sujet de conversation,
exact.
Et puis qui est vraiment la qui est en gros ma carte SIM.
Exactement, oui.
c'est ça.
Ok. Depuis plusieurs années, j'observe en tout cas un engouement autour des arts africains. Alors ça concerne l'art et les arts plastiques comme ce que tu fais, mais ça s'applique aussi à de la musique. On voit l'afrobeat mondialement, le phénomène que c'est, les sonorités africaines et congolaises sur la scène urbaine française. Toi, tu en es un acteur. Comment est-ce que tu vis et comment est-ce que tu interprètes tout ça?
Alors, merci pour cette question. Parce que moi, si tu veux, moi j'ai un autre regard sur tous ces sujets-là. En fait, moi j'ai un autre regard sur comment on nomme les choses. Je suis très très attentionné aux mots qu'on utilise pour définir les choses, pour définir l'art, la création et l'humain, en fait, simplement. Moi je pense que il faudrait faire une relecture, une reproposition de toute une histoire et de réécrire une nouvelle histoire, en fait. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité en Europe aujourd'hui, à savoir pourquoi on a besoin d'appeler un artiste africain, pourquoi on a besoin de nommer, etc.
Oui, de placer cette étiquette sur
Moi, je suis hyper sensible à tout ça, à tous ces sujets-là. J'ai l'impression que c'est des débats qu'on a eus, en fait, à la galerie ici, autour de la table ronde qu'on a appelée les archives de nos paysages mentaux, avec Ronan Grossia de la DIAF, ici même à la galerie, et au début du 13 janvier. Et donc, comment redéfinir les nouveaux modèles de commissariat d'exposition, comment les artistes eux-mêmes se positionnent, comment ils se sentent par rapport à tout ça et comment on en est arrivé là. Moi, je considère que l'art est un art tout court, un artiste est un artiste tout court. Et je pense qu'un artiste norvégien ne dira pas, on dira pas c'est un artiste norvégien, on dira pas oui, on va avoir une exposition norvégienne, on va avoir juste une exposition. Donc, je pense qu'on arrive à un point où maintenant des questions se posent. C'est un sujet qui est beaucoup évoqué dans des conférences, par des critiques d'art, par des commissaires d'exposition qui ont été l'objet de beaucoup de conversations.
Oui.
Donc, je pense qu'on se rend compte tous qu'il faut faire les choses autrement. Mais comment faire autrement? Il faut que chacun joue une carte. On va pas dire qu'il faut un modèle, parce que moi je suis pas un exemple, mais moi je pense que à un moment donné chacun y a joué de sa partition. Mais moi je me dis que on n'a pas besoin d'être au cœur d'une couleur pour évoquer l'art, parce que l'art doit être ce sujet qui est dans une forme de mutation sociale. Qui reflète la profondeur de la diversité. Donc moi, je pars du principe que quand on évoque l'Afrique, il faut l'évoquer comme vraiment 54 États, l'Afrique, les Afriques.
Exact.
Donc l'Afrique n'est pas un pays.
Oui, c'est pas uniforme, bien sûr.
Voilà, donc c'est tout un continent,
exact.
Avec diverses manières de faire, beaucoup de langues. Chez nous, au Burkina, on a 45 langues, par exemple. 45, une soixantaine d'ethnies.
Oui.
et qui sont plurivers, qui sont métissés, diffus, voilà. Donc, ajouter, faire de cette valeur ajoutée là notre vrai métissage, dépasser le métissage.
Ouais.
Donc, est-ce que l'exotisme n'est pas une complaisance colonialiste? Donc, il faut faire attention.
Oui.
Donc, voilà. Je ne me suis jamais considéré comme un artiste africain. Je me suis jamais. J'évoque beaucoup l'éloge de mes racines, parce que il faut toujours savoir d'où tu viens.
Oui.
Mais je me suis jamais dit tiens, je suis un artiste noir, je suis un artiste contemporain africain. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut dépasser le contemporain.
Oui.
Et il faut même dépasser le futur. Il faut à un moment donné dépasser juste la simple question de l'art et pour pouvoir bien communiquer autour d'une création. Il faut aller au-delà de ces clichés-là.
Bien sûr.
Voilà. Il faut être dans une inscription d'un lieu pour pouvoir parler de ce lieu-là. Donc, c'est pour ça que, par exemple, ici, quand on parle de la 193 Galerie, je pense qu'on est déjà dans une fenêtre ouverte sur le monde.
Oui.
Donc, c'est 193 pays, c'est dans le monde, c'est tout, ce sont des scènes diverses qu'on... qu'on défend, que la galerie essaie de défendre. Donc, à un moment donné, ce qui a payé pour les uns et les autres, est-ce que demain, nous allons pouvoir nous regarder en face pour dire que pourquoi on a appelé les artistes du continent les artistes noirs et l'histoire risque de nous rattraper.
Oui.
Je ne suis pas très à l'aise qu'on me présente comme artiste africain. Ça, c'est moi, ça me concerne. Je pense que l'art que je fais parle à tout le monde. Voilà, je pense que tout le monde peut rentrer dans une exposition et comme une écoute d'un lieu, et même comme si on était en train d'écouter un album live. Par exemple, l'écoute du lieu, le dehors, le dedans. Donc, ça parle à tout le monde. Il faut renommer et puis justifier aussi.
Oui.
Ça va justifier les étiquettes et les appellations. Parce que je pense que des fois, on les sort comme ça, on ne se rend plus compte. En fait. Et le danger, c'est qu'on ne se rend même plus compte qu'on dit aujourd'hui artiste africain. Ah oui, c'est une galerie africaine.
Oui.
Et donc, c'est devenu quelque chose de... Bon, on ne sait même plus ce qu'on dit. On dit, ah, c'est une galerie africaine. Non, c'est une galerie tout court. C'est un artiste tout court.
Exactement.
Moi, je pense que je suis... Dans mon cas, je me considérais comme pas un artiste africain.
Simplement un artiste.
Tout simplement.
Tu as aussi évoqué... tout ce qui est exotisme, colonialisme, etc. Donc ça ouvre vraiment une conversation justement beaucoup plus large sur justement la colonisation, le fait de que les nations occidentales se soient appropriées des œuvres, œuvres d'art qui ne sont même pas des œuvres d'art à l'origine, qui sont parfois des objets de culte.
De culte et d'initiation,
exactement, mais qui ici sont devenus des objets d'art et qui sont exposés
dans les musées,
exactement. Bien que tu te considères comme un artiste tout court, ce que tu es complètement, avec une histoire, un background, un vrai CV, un parcours. Quand on est un artiste et qu'il se trouve qu'on est africain ou d'origine africaine et qu'on se retrouve malgré soi classé dans ce genre-là et classé dans cette boîte-là, quand on assiste à cette effervescence, quand on vit quand même tout ça, est-ce qu'on se dit... est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on se dit enfin l'exposition et la reconnaissance et l'attention qu'on aurait toujours dû avoir? Ou est-ce que justement on se dit, est-ce qu'on craint plutôt qu'on ait simplement un visage et une tête dans une tendance exotique pour l'Occident?
Alors je pense que... Le jour où moi je verrai par exemple ici aussi une rétrospective à Beaubourg dédiée à un artiste, on va dire, noir vivant, pour dire les choses, on dira qu'on est passé à autre chose. Parce que je pense que quand même, c'est une bonne question, parce que on se demande des fois, moi je me demande, on se dit, beaucoup de gens disent, ah tiens maintenant ça y est, comme si... Et en même temps, ça pose question. C'est vrai que les artistes d'autres générations qui ont vécu en Occident disent « Ah oui, c'est vrai que nous, en notre temps, en son temps, c'était même pas possible d'aller pousser les portes d'une galerie.
Mm-hmm. »
Donc, d'où le fait que c'est important que les galeries ou tous ceux qui défendent les scènes du monde ne disent pas, tiens, on est maintenant, ça y est, ils sont acceptés.
Mmh, oui.
Donc, voilà. Donc, on retombe encore dans ce, on va dire, je ne sais même pas comment l'appeler. Maintenant, ils sont acceptés. Et donc, moi, je vois une institution. Moi, je regarde cette, on va dire, ce thermomètre qui est ce qu'on appelle l'institution. Mmh. Quand on regarde une institution, on a une lecture des choses. Donc, est-ce que les institutions sont assez diversifiées? Et voilà. Donc, moi, ça fait 10 ans que j'observe la scène. Mmh. Et donc, ce qui me gêne, c'est d'avoir l'impression que tout bouge, mais dans un seul sens. Voilà, donc il serait bien d'avoir une rétrospective, des expositions dans des institutions oui. Et qui sont ouvertes à tout le monde.
À tout le monde, oui.
Voilà, donc si le musée d'art moderne expose, je ne sais pas, je n'ai même pas de nom, qui expose tous les artistes du continent, et là on dira que on a...
Ce sera un cap d'atteint, un nouveau cap
d'atteint. Oui, un nouveau cap d'atteint.
Une nouvelle porte ouverte.
Ben oui, si on fait une rétrospective, une grande exposition à Beaubourg, par exemple, d'un artiste qui n'est pas que un artiste qui n'est pas exposable, entre guillemets, mm-hmm. dans une galerie dite africaine,
oui.
encore. En fait, on est toujours dans,
cette
répétition-là. Oui, oui. On dit, ah tiens, maintenant, ils sont à la vogue, mais ils sont... Quand on est que dans un seul lieu, donc célébrer la diversité, pas dans sa ghettoisation. Mmh. Voilà.
Je comprends.
Dans sa diversité, oui. la plus totale.
Exact.
C'est ça. Sinon, on répète les mêmes erreurs. Et voilà. C'est diversifié, mais c'est ghettoisé. Et donc, ils sont cantonnés dans un seul lieu.
Dans cette boîte des galeries africaines
voilà.
et des expositions.
Et voilà. Et donc, dans tel musée africain.
Oui,
et
bon,
voilà. Donc, on s'est dit, mais pourquoi. Bon, après, on a deux discours. Il y en a qui disent que c'est un besoin d'exprimer, mmh. de dire qu'on est un musée typé africain. Voilà. Après, à eux de justifier
oui.
pourquoi on a besoin de dire, de revendiquer cette appartenance.
Oui,
voilà. Moi, à mon sens, je pense que on a besoin Édouard Glissant le disait très bien, il disait que les frontières ne sont pas forcément une mauvaise chose, mais c'est le passage d'une saveur à une autre saveur. Mmh. Donc, c'est-à-dire que garder les frontières comme élément
oui.
et pouvoir les dépasser en disant tiens, on passe d'une saveur à une autre saveur.
C'est très, très joliment dit.
Merci.
On arrive à la fin de notre entretien. Je tiens à te remercier. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis cette fois dans le micro. Merci. Pour le temps que tu m'as accordé, pour ton savoir, pour ton expérience. Félicitations pour cette exposition.
Merci.
Merci pour ta disponibilité, pour ta réactivité. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Merci beaucoup à toi. Merci de l'intérêt que tu as apporté sur mes propositions. Moi, je dis merci pour ça. Donc, de la considération, ça veut dire que ce qu'on fait a aussi... de l'écho, ça a une écho, ça veut dire que c'est bien reçu, donc ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas en train de prêcher totalement dans le désert. Donc voilà, moi je te remercie pour ça, de m'avoir tendu le micro, de me permettre de m'exprimer, et puis en espérant que voilà, l'auditoire soit le maximum, le plus touché.
Exactement, le plus réceptif.
Voilà, le plus réceptif, et puis on se souhaite le meilleur, les vestiaires de la vie continuent de nous porter.
Exactement, exactement. Et justement, je parlais de suite. Ça, c'est ma dernière question.
D'accord.
Quel genre d'artiste tu es? Est-ce que tu es un artiste qui passe très rapidement à autre chose, comme par exemple dans le cadre de cette exposition, une fois qu'elle sera terminée, est-ce que tu vas immédiatement passer à autre chose, ou est-ce que tu es déjà justement en train de travailler sur autre chose, ou est-ce que tu t'accordes un répit pour faire un travail de rétrospection sur ton œuvre, sur toi-même, et avant de justement de potentiellement retourner au Burkina Faso pour aller puiser encore de l'inspiration et de lancer une autre dynamique, un autre cycle.
Oui, c'est tout à fait, c'est ça, c'est le mot cycle qui est, c'est cyclique, la création. Mmh. On est toujours porté par ce cycle-là, et ça se ressent sur nos travaux à chaque fois qu'on crée des choses dans des moments particuliers. Mmh. Bon, là, moi, je suis... je dirais pas que je passe à... tout ce que j'ai fait, tout ce qui fait aura forcément une répercussion sur ce que je vais faire à nouveau. Là, je fais des nouvelles recherches. Après, je ne pars toujours pas du principe que je suis en train de faire quelque chose pour une exposition, mm-hmm. particulièrement. Je fabrique des petites choses à l'atelier. J'essaie de me comprendre moi-même. Mm-hmm. J'essaie de comprendre au maximum ce que je fais pour pouvoir mieux en parler et puis continuer dans ce cycle-là, dans cette dynamique. Et donc la prochaine fois, la vie nous dira où on ira, mais j'ai des propositions, j'ai des projets. Maintenant, comment ça va se mettre en place? Je pense qu'il y a toujours un lien dans ce que je fais et vers ce que je vais faire. Oui. Donc ce sont des choses que j'ai envie de développer, des choses que j'ai envie de développer plus, que j'ai envie de pousser un peu plus loin. Donc c'est comme une écriture qui bouge constamment. Et voilà, donc on est toujours dans la quête de l'existence humaine.
Exactement. Voilà, c'est ça. Pour la suite, on sera là.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.